おかしいおかしい。
Bonsoir, mesdames et messieurs. Première partie ce soir, je vous propose les trois thèmes à savoir. Élection 2011, la réunion interinstitutionnelle tenue le week-end dernier a décidé d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Ensuite, nomination samedi dernier par le chef de l'État de près de 1000 nouveaux magistrats. Enfin, le Premier ministre a échangé lundi dernier à Kinshasa avec les opérateurs économiques au sujet de l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Participe à ce débat, trois confrères et journalistes, il s'agit de Fidel Moussangou, le coordonnateur du journal Le Phare, c'est un quotidien qui paraît à Kinshasa. Diana Bikoupa, le directeur de publication du journal L'Avenir, c'est aussi un quotidien qui paraît à Kinshasa. Et Pierre Tenemo, le directeur de programme de la radio Sanga FM, émettant depuis le Mai au Kasaï oriental. Réunion inter-institutionnelle sur le processus électoral, nomination des nouveaux magistrats ainsi que l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, tels sont les thèmes retenus pour le débat de ce soir. Comme à la presse chinoise a traité ce différent thème, écoutons cette revue de presse que nous présente Samuel Kachak.
Bonsoir. Les journaux parus cette semaine ont parlé des élections 2011 ainsi que de la réunion interinstitutionnelle tenue le week-end dernier sous la présidence du chef de l'État. La campagne des tropiques parlant des échéances électorales de 2011 estime que les garanties données jusqu'à ce jour restent verbales et à une année des scrutins, aucun décor visible n'est planté. D'après ce journal, le coût du processus électoral se situe encore dans le domaine du rêve. Abondant dans le même sens, la référence plus signale que lors de sa rentrée politique lundi dernier, le leader du RCD, Azarias Roberoa, signala les 12 problèmes qui bloqueront les élections 2011, invite le président de la République à ouvrir les concertations avec la classe politique pour résoudre cette question et recréer le consensus. Le palmarès de son côté, parlant des élections 2011, signale des signes de panique au sein de la classe politique congolaise. Autre sujet abordé cette semaine, c'est la présence du Premier ministre Adolphe Mouzito devant la Fédération des entreprises du Congo. Pour l'observateur, la guerre Mouzito-Tchèque n'a pas eu lieu, comme d'aucuns s'y attendaient, lors du débat sur l'amélioration du climat des affaires entre le Premier ministre et les entrepreneurs congolais qui voulaient à tout prix obtenir des garanties fermes sur les efforts du gouvernement visant à recréer un cadre propice aux investissements et aux affaires en RDC. Pour ce journal, l'amélioration du climat des affaires en RDC passe par une révolution morale.
Merci Samuel. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Fidel Moussango, vous êtes coordonnateur du journal Le Phare, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Votre appréciation par rapport au travail de la presse de cette semaine?
Non, la presse comme d'habitude fait du bon travail, ça c'est indéniable. Les sujets qui sont multiples sont traités de manière objective, mais les commentaires, ça c'est un gage du journal, mais c'est très bien fait.
Diana Bikoupa, comment vous commentez le travail de la presse qui nous a été cette semaine?
Tout à fait. La presse, c'est comme la plus belle fille du monde qui ne peut donner que ce qu'elle a. Et la presse congolaise est de plus en plus accrochée à l'actualité. Et c'était le cas cette semaine. Et la revue de la presse qu'on a vu tout à l'heure est conforme à l'actualité telle que nous l'avons vécue.
Pierre Tenemo, vous êtes directeur du programme de la radio Sanga FM, qui est maintenant depuis une semaine au Kasaï oriental. Quelle est l'actualité qui a dominé la province du Kasaï oriental cette semaine?
Au courant de la semaine, l'actualité, c'est toujours le fameux problème qui oppose l'AMIPA au gouvernement provincial. Il y a une délégation de Kinshasa, conduite par un délégué du ministère des Mines, qui fait comme l'ambassade pour attendre les différents partis.
Merci, nous abordons notre premier thème de ce soir. Élection 2011, la réunion interinstitutionnelle tenue le week-end dernier a décidé d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. La question des prochaines élections était au menu des travaux de la réunion interinstitutionnelle présidée par le président de la République le week-end dernier à Kinshasa. Selon le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, cette réunion a débouché sur la décision de la tenue de ces élections dans le délai constitutionnel. Toujours selon Adolphe Lumanu Bonansefou, dans son contrat 90 et samedi soir sur la télévision officielle, sept activités principales sont réunies dans un ordre chronologique. Parmi ces activités, la publication du calendrier électoral, la révision du fichier électoral et la désignation et l'installation des membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. On écoute Adolphe Lumanu Bonasefou, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, nous parler de la révision du fichier électoral. Ses propos sont recueillis par Emmanuel Imbanda.
Concernant les échéances électorales, les élections doivent se tenir dans les délais attendus conformément à la Constitution. Au sujet des opérations préélectorales, électorales et post-électorales, sept activités importantes sont à réaliser dans l'ordre ci-après. 1. La publication du calendrier électoral. 2. La révision du fichier électoral. 3. La désignation et l'installation définitive des membres de la CENI. 4. L'inscription des candidats. 5. Les campagnes électorales. 6. Les scrutins électoraux. Et 7. La gestion des contentieux électoraux. En rapport avec la révision du fichier électoral, les exigences suivantes sont à rappeler. L'obligation pour tous les électeurs, anciens et nouveaux, de se présenter à leur centre d'inscription pour acquérir la nouvelle carte d'électeur. L'établissement des centres d'inscription dans tous les groupements et toutes les communes. La nécessité de parachever le processus visant à conférer à cette entités, le statut des villes ou des communes, et à fixer les subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces, l'intérêt de procéder rapidement à une nouvelle codification des entités décentralisées et déconcentrées. À propos du cadre légal du processus électoral, que la question liée à la réforme électorale annoncée soit traitée dès le début de la prochaine session parlementaire pour rendre compatible sa matérialisation avec le chronogramme électoral. Que l'annexe à la loi électorale portant sur la partition des sièges soit adoptée à l'issue de la révision du fichier électoral. Quant aux questions financières et logistiques, l'interinstitutionnel a décidé de l'adoption et la mise en œuvre du plan de trésorerie 2010 permettant la réalisation de l'opération de révision du fichier électoral dans un délai compatible avec les exigences du calendrier. De l'adoption d'un budget global couvrant tous les cycles électoraux allant des opérations préélectorales aux élections locales.
Fidel Moussangou, comment analysez-vous les recommandations issues de cette réunion interinstitutionnelle?
Ça fait encore des recommandations de plus.
Pourquoi?
On revient sur la même chose, c'est une astuce non-verbale, inutile.
C'est inutile pourquoi?
Mais parce qu'on répète les mêmes choses, parfois on en rajoute d'autres. C'est comme si nous étions en 2007, ce que le vice-premier ministre est en train de dire. C'est des choses qu'on aurait pu commencer à régler à partir de 2007, dès lors qu'on avait installé toutes les institutions de la République. On avait un président de la République élu, un gouvernement, un parlement, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, et toutes les assemblées provinciales. C'est à ce moment-là qu'on devait commencer à faire ces critères, et réviser les fichiers. Mais là, on commence même à une année. Et puis, il y a des contradictions entre lui, le vice-premier ministre, et le président de la CENI. Il y a 2-3 semaines, Lumanu nous parlait de la caducité des cartes d'électeurs, comme s'il avait un autre papier qui pouvait remplacer la carte d'électeur. Ça, c'est très grave. Il y a deux jours, il y a un jour, hier ou avant-hier, Malou dit les cartes d'électeur sont encore valables jusqu'à ce que les nouvelles cartes soient en circulation.
C'est une précision que
oui, évidemment, ça veut dire qu'il y a contradiction entre les autorités chargées de réaliser les élections, les deux, le ministère de l'Intérieur et la CENI. Un. Deux, il y a le problème de la CENI. Mais la bagarre qui va se faire au Parlement pour la désignation de leurs délégués, mais elle peut faire une année, connaissant la faune et la flore politique qui siège au Parlement, même dans la majorité. La majorité, disons qu'il y a plus de chances qu'ils puissent se mettre d'accord. L'autorité va décider que c'est tel, et tout le monde se fait. De l'autre côté, ça peut faire des mois. Trois, on parle de la décentralisation, mais on n'a pas voulu le faire. Quatre, le financement de ces opérations, c'est de l'argent. Et connaissant maintenant le frein de Kinshasa pour libérer les fonds, tout ce qu'on dit là-bas, il faut des fonds. Quand vous devez créer des bureaux d'enrôlement, il faut payer les gens. Et l'argent doit arriver à temps. Quand ils sont payés, ils travaillent. Donc, il y a trop de préalables sur le plan pratique. Alors, sur le plan politique, c'est pire. C'est pire. Il y a des agresseurs politiques. Vous verrez le mot juste pour les dénoncer. Les gens ont pas fait attention. Rien que le problème de la rétrocession, ça pose problème. Prenons Bukavu. Attends, 45 milliards. Le gouverneur va faire des va-et-vient ici, il suffit pas avoir 5 milliards. Et les 5 milliards, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et les provinces qui produisent plus d'argent, elles reçoivent peu
Mais il y a quand même des rancœurs. Je produis 80 milliards. Les modules à peine 15 milliards. Mais les gens ont des rancœurs. Kinshasa est l'obstacle principal à l'organisation et la tenue des élections.
En effet, de toutes ces réunions qui sont tenues,
ils multiplient des réunions pour répéter les mêmes choses. C'est comme une carte à la française, on retourne dans tous les sens et finit par perdre son goût. Donc on finit par en avoir marre. Et puis, il y a une phrase qui m'a échappé hier. On ne parle plus de 2011, on parle de 2011-2012. Or, en 2011, le 6 décembre, le mandat du chef de l'État s'arrête là.
2011, c'est le début du processus. Hein. On commence par les élections au sommet, donc les élections présidentielles, les élections législatives, les élections, la députation provinciale. Et le processus continue et ça pourrait aller jusqu'au-delà de 2011.
Non, ça c'est faussé. Si on commence par le présidentiel, on va maintenant, écoute, orienter les autres élections. Écoutez, l'élection présidentielle, c'est le clou des élections. Il faut commencer par les premières élections. On peut mettre les élections locales, municipales à côté. On peut commencer par les élections provinciales. Nous avons des députés provinciaux qui élisent les sénateurs. Ensuite, les élections législatives, nous avons l'Assemblée nationale. Et enfin, le président. Et avec ça, il faut qu'on pratique, il faut que cette fois-ci, cette histoire des centres des populations disparaisse à jamais. Que ce soit chaque bureau qui traite, publie les résultats. Et le matin, nous savons que dans tel bureau, c'est Diana qui a été élue. Et si j'amenais de l'argent pour les contrer, les effets de l'élan vont faire la peau.
Diana Bikoupa, Fidel Misango dit que cette réunion était inutile parce que les décisions qui ont été prises devaient l'être depuis 2007. C'est votre avis?
Non, je ne peux pas être vraiment de cet avis. Parce que vous savez, c'est ça là, les Congolais. Le gouvernement aurait dit que les élections auront lieu en 2013. Ah non, pourquoi 2013? Lorsqu'il dit que les élections auront lieu dans le délai en 2011, et les gens doutent. On ne sait pas donc. On veut toujours dire le contraire de ce qui est dit. Écoutez, ce que la réunion interinstitutionnelle a dit dernièrement, ce n'est qu'une confirmation. On ne gère pas le pays une fois pour dire que tout ce qu'on avait dit en 2007, c'est fini. Non, il y a un vrai problème. Il y a la conjoncture sur les élections. Il y a les gens qui se posent des questions. Il y a même les malins qui vont dire, j'ai suivi un politicien, pour ne pas les citer, Franck Dionne, qui dit que le gouvernement a écrit à l'ONU, donc aux Nations Unies, pour lui demander d'organiser les élections en 2013. Mais vous imaginez, le gouvernement va demander à l'ONU pour organiser les élections en 2011. Dans quel droit et pourquoi à l'ONU le demander? Est-ce qu'il faut demander l'autorisation à l'ONU pour organiser des élections dans notre pays? Et devant telle agitation, devant telle campagne qui peut démobiliser l'électorat, il fallait que la réunion interinstitutionnelle, qui d'ailleurs a rappelé ce qu'elle avait déjà dit en Bouzmaï, à la réunion de Bouzmaï, on avait dit il y a l'argent. Et le gouvernement va organiser les élections. Et le ministre, le vice-ministre de l'Intérieur a affirmé que sur les 500 millions ou quelque chose, il y a déjà 300 millions pour l'organisation des élections. Pour cette fois, en 2006, il y avait, le gouvernement devrait participer avec quelque chose comme 20 ou 15%. Mais cette fois, le gouvernement participe aux élections avec plus de 50%, donc 60 et quelque chose pour ça. Donc c'est que le gouvernement montre sa volonté d'organiser les élections.
Donc on ne devrait plus continuer à émettre des doutes sur l'organisation des élections en 2011.
On ne peut pas émettre des doutes. Vous voyez ce que les gens cherchent. C'est que, par exemple, c'est rigolo, c'est que Azarias Roubert a dit, il demande à ce que les gens se retrouvent. C'est rigolo parce que vous voulez un pays, il y a déjà des institutions.
Là, il met un point de vue.
Bon, j'ai mis un point de vue sur son point de vue. Si Azarias Roubert estime qu'il y aura encore un jour des combines politiciennes, que les gens vont encore trouver un sens restrictif plus pour que les gens puissent se positionner comme ils se positionnent pour devenir président.
Je pense que les éléments qu'il a avancés ne sont pas fondés.
Bon, il peut bien avoir fait une analyse. Roubert a d'abord sort très peu. Je me demande ce qu'il apprend sur les élections, il apprend. Par quelle occasion, par quel moyen? Bon, ce qu'il a comme information là, mais il doit s'informer auprès du gouvernement. Le gouvernement dit que les élections vont avoir lieu, l'argent est là, et on a vu dernièrement la commission de l'ONU qui est venue sur place pour demander ce qui reste au gouvernement, parce que le gouvernement avait dit qu'il demandera aux partenaires, parce que pour les élections générales, il n'avait pas besoin de demander l'argent des partenaires. Mais les partenaires eux-mêmes sont venus. Alors, le gouvernement accepte. Donc, c'est pour vous dire que sur ce côté-là, le guerre de la nerf, c'est l'argent du temps, mais l'argent est déjà là, et que la volonté politique est là, et il n'y a aucune raison que les élections n'aient pas lieu. Et donc, le consensus, c'est quoi? C'est dans les urnes qu'il y aura le consensus.
Pierre Tenemo, comment vous, en Mouzimaï, vous avez accueilli les différentes recommandations de cette réunion interinstitutionnelle?
Vous le savez, peut-être que bon, les gens attendent impatiemment ces élections. Bon, vous savez, en 2006, bon, beaucoup de gens n'ont pas voté pour des raisons peut-être que tout le monde connaît déjà et auxquelles nous ne voulons pas y revenir pour l'instant. Nonobstant, il y a quand même quelques inquiétudes qui sont soulevées passées par là dans l'opinion, ici chez nous. C'est par exemple au niveau de la terminologie de l'opération à venir. Bon, est-ce qu'on va parler du fichier, de la révision du fichier électoral ou tout simplement de l'opération d'identification comme en 2005? Hein, vous avez dit tout à l'heure que le ministre parle de la caducité des cartes actuelles, donc des cartes d'électeurs actuelles, c'est-à-dire que bon, tout le monde maintenant est concerné. Est-ce que parce que tout le monde est concerné, on va parler en ce moment-là de la révision électorale, ça c'est une question de la révision du fichier électoral plutôt. Bon, deuxième inquiétude, c'est la révision du fichier électoral, donc une révision entre parenthèses. Bon, on attendait les élections locales juste après cette révision du fichier électoral. Mais.
Allô? Allô, Pierre Tenemo? Apparemment, nous avons perdu Pierre Tenemo, Fidel Moussangou. Le rapporteur général de la CEI, M. Guillaume Mérimon, parle du deuxième semestre pour le début des élections, hein, donc au mois de juillet, au mois d'août. Je pensais que les points qui ont été relevés pendant la réunion interinstitutionnelle seront réalisés, parce qu'on parle de la publication du calendrier électoral, on parle de la révision du fichier électoral, on parle de la désignation et l'installation définitive des membres de la CEI, on parle de des candidats, de la campagne électorale, le scrutin électoral. Vous pensez que tout cela pourrait être réalisé pendant 12 mois?
Rien n'est impossible à l'homme quand il veut réaliser son rêve. Si le pouvoir central veut réaliser les élections en 3 mois, il peut le faire, mais à condition qu'il puisse tenir la bourse correctement et que l'argent arrive à l'endroit où il faut que ça arrive.
Vous pensez que le problème est lié seulement à l'argent?
Il y a d'abord l'argent.
Il y a pas de problème organisationnel.
Non, il y a d'abord l'argent. Non, l'organisation, c'est un problème. Ça se fait sur un papier. Vous allez faire ceci et cela. On va désigner. Ils ont dit qu'au niveau de la CENI, au niveau de la majorité, c'est pas un problème. Il y a un chef suprême qui va décider. C'est tel. Tout le monde l'a beaucoup. Au niveau de l'opposition, ils vont se chamailler. C'est question de l'industrie. Ils finiront par se mettre d'accord. Deux, le problème, c'est au niveau de la volonté politique de libérer les fonds et de veiller à ce que cet argent arrive aux destinataires.
On parle de 700 millions de dollars en aide.
Nous les avons, on peut les produire, c'est pas un problème d'argent. La première fois, vous pouvez refuser l'argent de la communauté. Nous avons un budget de 3 milliards. Bon, maintenant, avec la réduction de la dette, on peut maximiser les gains, si on le veut. On peut pour le coup même 10 milliards de dollars. On dit à la communauté, merci beaucoup. Deuxième élément, il faut aussi mettre fin donc à ces petits ressentiments politiques. Je prends un exemple. L'AMIBA, mon autre confrère qui parle de Mouzimaï. L'AMIBA est en train de mourir à petit feu. Et qui tue l'AMIBA? C'est le gouvernement central. On leur demande de laisser l'AMIBA, qui a des experts, pour négocier un financement international et redémarrer le travail à la main. Non, ils ne veulent pas. C'est le gouvernement central qui empêche l'AMIBA de redémarrer.
Il y a quand même des efforts qui sont menés
Moi, j'ai des relations à l'AMIBA, là, des amis qui me disent nous avons toute expertise pour ça. Pour, il y a des ingénieurs, même qui sont ici, qui peuvent produire des documents pour attirer ce qu'on appelle les investissements internationaux et démarrer le travail. Ça vous fait 1 milliard de dollars par an que l'AMIBA produit. Et l'État congolais est 80%. Si l'État congolais ne trouve pas de moyens, peut se retirer. Dit, je retire ma part à 30%. Chercher des partenaires.
Et les liens avec les élections?
Mais les liens, c'est le sentiment. L'AMIBA, c'est le poumon d'avis au Kassai. Les deux Kassai. L'AMIBA, Tikapa, Mouzimaï. C'est le poumon. Les gens trouvent qu'il s'agit d'une injustice à leur endroit. Et ils ne ressentent pas ces élections comme des Congolais. Ils se sentent rejetés. Ça fait un agrégat politique.
Troisième chose maintenant, la rétrocession. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu que Kinshasa prenne le gros, et dit non, Lumbashi a produit 70 milliards, Bujima en a produit peut-être 3 milliards, qu'est-ce qu'on fait? On fait, on revient à la caisse de répercussion. C'est un calcul pour moi, comptable. On va ajouter ceci et cela pour équilibrer, en attendant que les autres provinces s'organisent. Le Bandundu ici, qui est tout proche ici, la province d'origine de Gizenga, de Mouzik, n'a rien. Alors, pourquoi que les jeunes Bandundu seront contents avec ces élections? Il faut qu'il y ait un sens de solidarité nationale et Kinshasa puisse partager les recettes de manière à ce qu'il n'y ait pas de province. Pour le moment, attention, pour le moment qu'ils ne produisent pas, mais si on leur donne des moyens, peuvent produire. Et puis qu'on leur donne la latitude de négocier des contrats internationaux pour essayer d'investir et de produire aussi comme les autres. On ne doit pas toujours devenir des esclaves, excusez-moi le terme, du Bas-Congo, du Katanga et de Kinshasa.
Diana Dikoupa, Kidel Msangou, affirme que les élections au Congo, on peut les organiser même à 3 mois. Suffisamment d'avoir une certaine volonté politique.
Écoutez, moi, je persiste et signe que tout ce qu'il y a une cause autour des élections, pour rien. Et je l'ai plus d'une fois dit que ce sont à Fidel, je lui ai dit, s'il est candidat, il n'a qu'à se préparer. Mais s'il n'est pas encore prêt, c'est lui qui n'est pas encore prêt, il doit se préparer. Mais je constate que tous ceux qui ont des ambitions et ne sont pas prêts eux-mêmes, ils se mettent dans leur certitude d'anticiper dans leur tête que toutes les élections pourraient ne pas avoir lieu. Et ils se mettent à développer un discours que les élections pourraient ne pas avoir lieu. Ça les arrange intérieurement, mais ils veulent bien donner la faute à quelqu'un d'autre. Mais je vous dis que les élections auront lieu. Tout ce que Fidel dit, ça n'a aucun rapport avec les élections. La MIBA, le CICI, la rétrocession. Mais écoutez, la rétrocession, le gouverneur de province ont été ici à Kinshasa dernièrement. Ils savent que le gouvernement ici a trouvé une solution magique pour appliquer la concession en ce qui concerne la fameuse rétrocession. Mais pourquoi on avait décidé la rétrocession? Dans une disposition de la Constitution, il faut voir et l'esprit et la lettre. Dans la lettre, on a écrit qu'il faut retenir à la source 40%. Mais ce n'est pas lorsque une province ne produit que 1000 dollars. 40% c'est quoi? Ça ne représente rien. Quand une province ne produit rien, on lui dit, bon, prenez vos 40%, parce que qu'est-ce qu'il faut en faire? Rien du tout. Mais le gouvernement actuel a trouvé une solution magique dans l'esprit de la Constitution. L'esprit de la Constitution veut que les provinces aient les moyens pour fonctionner. Alors le gouvernement s'est dit, trouvons une solution qui est la solution qu'on appelle la solidarité nationale, qui en fait, à ce moment-là, remplace la caisse de péréquation. Et c'est, maintenant, il n'y a plus de problème de ce côté. En ce qui concerne la MIBA, le gouvernement se bat chaque jour pour trouver l'argent pour que la MIBA soit financée. Et nous, j'étais à Mbouzma avec le chef de l'État, nous venons de poser la question à notre ami de Mbouzma, dommage qu'il soit parti, mais il ne dit pas que là, les gens, il a bien dit, les gens attendent les élections, les pieds fermes. Donc, il n'y a pas de... C'est à qui ça qu'on voudrait créer, dire non, on a poussé Mbouzma à ne pas voter. En 2006, pas pour le thème ceci, voilà, le titre, on avait déjà écrit dans le titre Kabila, voté Kabila, il y a eu ceci, et ils n'ont pas voté. Aujourd'hui, les gens veulent se reprendre, et voilà encore un discours qui reprend, non, c'est en quelque sorte, c'est un peu comme ce que Fidel dit ici, ne votez pas tant qu'on ne vous aura pas donné la MIBA. Non, les élections vont avoir lieu, il n'y a rien du tout qui les empêchera en 2011.
Pierre Pellemont, vous êtes en ligne?
Oui, je suis là.
Oui, personnellement, il est de l'autorité publique qu'en 2005, Mbujimayi, les gens étaient réticents pour aller se faire inscrire, se faire enrôler. Et cette fois-ci, quels sont les efforts que les forces vives de la nation, les efforts que les états-majors des partis politiques sont en train de fournir pour sensibiliser la population afin d'aller de participer à la révision du fichier électoral?
Oui, il y a d'abord un effort qui est fait par le bureau de représentation provinciale ici à Mbujima, mais il y a une réunion avec les différents partenaires, et il y a eu d'abord avec les partis politiques, avec les acteurs non étatiques, et tout dernièrement, nous avons suivi avec les professionnels, donc avec les journalistes. Alors, il y a vraiment un engouement et les gens attendent impatiemment ces élections à venir. D'abord, la révision du fichier électoral et les élections supplémentaires.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Nomination samedi dernier par le chef de l'État de près de 1000 nouveaux magistrats. Les nouveaux magistrats invités à jouer le rôle de gardiens de la légalité et de l'ordre social sont complaisance par le président de la République samedi dernier. C'est à la clôture de la question de leur formation à Kinshasa. Une occasion pour rendre publique la nomination par le président Joseph Kabila de près de 1000 nouveaux magistrats. Ils doivent être déployés en province avec le grade de substitut de procureur de la République. Suivons ce reportage de Jeff Pongoy.
Une surprise agréable pour les nominés, c'est la lecture de l'ordonnance présidentielle concernant leur entrée en fonction. Des bruits frénétiques retentissent dans la salle. Puis le chef de l'État, Joseph Kabila, fait quelques recommandations aux promus. Entre autres, il attend d'eux qu'ils soient irréprochables, qu'ils soient des magistrats dignes et intègres, sans couleur tribale ni politique. Ayez peur seulement de Dieu et de la Bible, martèle le magistrat suprême. Il affirme sa détermination de créer un avenir meilleur pour tous, car, souligne-t-il, les conditions de vie des magistrats sont une priorité pour bien jouer leur rôle. S'adressant à ses administrés, le procureur général de la République, Thierry Kabange, les entretient sur la notion de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Je ne pense pas que lorsqu'ils viennent dans ce corps, comme on le fait, l'indépendance de la magistrature, ils ne pensent pas qu'ils sont au-dessus de la loi. Ils sont serviteurs de la loi.
Quant à la corporation des magistrats, elle salue cette solennité. Néanmoins, le président de l'intersyndicat des magistrats du Congo, René Sibou, relève que des imperfections ne pouvaient pas manquer tout au long de la formation des apprenants.
Pas de formation en tête, mais il faut surtout apprécier la réussite au concours. On pouvait préparer les magistrats à être plus opérationnels. C'est une formation qui va se poursuivre aussi sur terrain.
En 2011, 1000 autres magistrats seront embauchés. Ce qui va accroître à environ 3700 les effectifs des juges et officiers du ministère public.
Fidel Moussangou, comment avez-vous accueilli la nomination de ces nouveaux magistrats?
Pour moi, c'est encore un folklore de plus. Pourquoi? Parce qu'on a mis la charrue devant les bœufs. Oui, faire un concours, d'abord le concours a eu beaucoup d'irrégularités là. Mon journal a dénoncé des listes parallèles. Il y a même des gens qui n'avaient pas encore terminé leur gradué en droit, qui étaient...
Votre journal, le phare.
Le phare, on a publié ça. Le ministre s'est attempété, nous avons trouvé, nous avons les vraies listes. Donc il y a eu d'abord magouille à ce niveau-là. Est-ce que ça a été corrigé ou non, ça y est. Nous avons des noms, des gens qui étaient en troisième gradué, qui étaient reçus au concours.
Comme vous avez des éléments qui...
Oui, on a publié, mon journal a publié ça, le ministre était dans tous ses états, mais on le lui a recouvré et puis c'est tué. Ça, c'est un deuxième élément. C'est des piscines dans le dos. Le pays a toujours eu besoin de magistrats. Au moment où je vous parle, il y a 2500 dossiers de cassation à la Cour suprême. Pour 30 juges, ils ne peuvent pas les traiter. Et les dossiers s'accumulent de plus en plus. Donc, nous avons une carence. Il aurait fallu commencer par construire des infrastructures pour accueillir ces magistrats. Ça, c'est la première chose. Deux, il aurait fallu revenir à l'ancien système. En 60, quand la Belgique dépose l'indépendance et s'en va, on a créé l'ENDA. Et on a recouru au tout premier docteur en droit et une secrétaire pour diriger cette école. Parce qu'il fallait des juges. On a pris des commis qui se commençaient à devenir juges et puis on a formé. Qui veut passer par là avant d'aller à Bruxelles? Il aurait fallu, comme en France, comme en Belgique, comme ici à Brazzaville, créer une école de magistrature. Une école pendant 18 mois. Donc les finalistes en droit passeraient par cette école pendant 18 mois. Ceux qui veulent faire la magistrature, il y a filière magistrature, filière avocat, filière notaire, filière huissier de justice. Les quatre filières principales. De sorte qu'à la sortie de l'école, il y a un concours. Et les meilleurs sont promus, sauf les avocats. Les avocats, ils ont le concours au barreau. Mais les magistrats le font pendant 18 mois. Des cours. Et le projet existe, mais il faut construire cette école à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Bukavu. Là, vous avez des étudiants qui terminent en droit, ils commencent pendant 18 mois. Ils terminent, ils savent comment rédiger un jugement, comment faire les critiques d'un arrêt. Ils savent comment faire le procès verbal, au niveau du parquet, au niveau même de la justice. Ça, c'est un. Voilà comment il fallait commencer. Ensuite, on recruterait facilement. Mais ici, 1000 étudiants sortis de l'université réussissent à un concours et un tour de magouille, et on dit qu'ils vont se lancer de 3 mois. Mais mon cher ami, ils vont siéger où? Sous les arbres. Même ici, récemment, il y a des gens qui ont été révoqués irrégulièrement, illégalement, sans un dossier disciplinaire. Il y a quand même la procédure. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il a nommé d'autres. Enfin, il a fait la permutation, le ministre. Je connais des magistrats qu'on a envoyés dans telle histoire. Il n'y a pas de tribunal de grande instance. Il n'y a pas de tribunal de paix. Alors, ils sont en train qu'ils cassaient des bons de l'autre, on va sous l'arbre. Maintenant, on en prend 1000. On va les envoyer où? Vous travaillez où? Donc, les infrastructures devaient d'abord
précédé. Ensuite, les hommes. On a fait le contraire.
Oui, bien avec ou pas, c'est bien sans vous affirme qu'il y a des préalables qui devaient être accomplis avant d'envisager, d'organiser ces concours de magistrats.
Et, écoutez, moi, je suis pragmatique. Entre avoir des gens, il n'y a pas de jugement, il y a des conflits. Vous savez que le conflit Emmanuel Elengu était à la base d'un mauvais procès. Et ça a déclenché ce que nous avons vécu comme horreur. Entre avoir un tribunal, un magistrat qui siège sous un arbre, et des gens qui se bagarrent sans jugement, je pense que je crois ce qu'il y a des magistrats, même s'ils doivent siéger sous l'arbre. Je pensais que la justice soit rendue. La justice n'est pas liée à l'infrastructure.
Je pense que cette justice sera rendue de façon convenable lorsque les conditions de travail ne sont pas réunies.
Écoutez, le président de l'État l'a dit dans son discours. Il va mettre un accent particulier sur les conditions des magistrats. Les jeunes magistrats savent ce qu'ils auront comme moyen pour commencer leur travail. Le gouvernement a promis, c'est le gouvernement qui organise. C'est le gouvernement qu'on demande. Le gouvernement a promis des moyens progressivement. Fidèle était avec moi à la cité déjà dans la salle. Le président dit progressivement, il va donner le moyen. Et c'est même pas normal. Comme je l'ai répété ici, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a.
Donc, ces nominations tombent à point nommé parce que le pays avait besoin des magistrats.
À point nommé, Fidèle l'a dit lui-même, vous l'avez rappelé, qu'il y a une carence en magistrat. Lui-même vient de dire qu'il y a des jugements qui attendent d'être rendus parce qu'il y a que 30 juges, il devrait en avoir plus. Mais je pense que aussi, je pense qu'avoir des gens, ce sont des gens qui réfléchissent, ce sont des gens qui créent les moyens. On ne peut pas, les moyens ne peuvent pas créer des gens. Ce sont des gens qui sont là qui créent les moyens. Mais je suis étonné à entendre sur tous les médias que des gens mettent en doute la formation que ces jeunes gens ont eu. Alors que la plupart de ceux que nous avons comme magistrats ne sont pas passés par une école de magistrats. Ils sont passés par la même faculté de droit de l'UNIKIN. Vous allez vous rendre compte que tous les instituts qui avaient comme mission de former de cadres techniques sont en train de devenir des universités. L'UPN est devenue université. L'ISP Gombetta est au niveau de licence. Tout le monde veut aller au niveau de licence, de doctorat. Et au même moment, on voudrait que à la faculté de droit, on fasse une marche en arrière. Si on avait créé cette école-là avant, cette école serait déjà devenue une faculté. Et c'est ça la mentalité de Congolais. Moi, je pense que une bonne formation est celle qui se reçoit sur l'État.
Pierre Pénémo, Diana Dikoupa, a fait une bonne formation, c'est fait sur l'État. C'est votre avis?
Bon, c'est peut-être ça, mais au niveau de notre rédaction, nous avons plus analysé la situation sur les conditions de travail de ces magistrats qui viennent déjà dans cette profession-là. Nous avons eu une expérience en mer chez nous ici, et il y a des magistrats, par exemple, qui ont été envoyés à Kabinda, mais à cause des conditions de vie, ils sont entrés en Mozambique, où il y a la circulation et des hommes et des biens. La même situation se passe aussi au niveau de Lusambo. Il y a des magistrats qui sont envoyés là-bas, mais au lieu de rester à Lusambo, ils préfèrent aller, par exemple, rester la plupart des temps à Lusambo. Et pendant ces temps, à Lusambo, il y a des dossiers qui traînent, il n'y a pas de jugement, tout comme à Kabinda, c'est ça qui est la même chose. Donc, nous aurions souhaité que l'on puisse mettre à la disposition de ce nouveau délégué, de ce que nous sommes nouveaux magistrats, de moyens pour qu'ils fassent correctement le travail. Sinon, ça sera une naissance nouvelle de travail, et donc pour la population.
Sidel Moussangou, les moyens ont été promis par les chefs de l'État. On espère que ces moyens seront mis à la disposition de ces magistrats pour leur permettre de bien faire le travail.
Écoutez, la justice est un domaine très sensible. Il s'agit de la vie des gens, des entreprises. Comment voulez-vous rendre une justice sous les arbres? Où est-ce que vous allez rédiger vos papiers? Et vous allez les faire au BIC? Or, il y a des ordinateurs. Et si maintenant vous allez les garder, où ça, les dossiers, les pièces des dossiers, les pièces que les avocats maintenant vont produire. Vous allez les mettre sous les arbres, exposés à côté des intempéries? Non, qu'on s'en... Nous ne sommes pas les
blocs de la pièce. Vous voyez, il y a besoin d'avoir beaucoup plus de magistrats, c'est très sentir.
Non.
Il fallait aller à ces concours pour avoir...
D'abord, il ne fallait pas d'abord révoquer les magistrats. Au lieu de dire, de garder ce qu'ils sont. Et puis, écoutez, il faut faire une sélection. Il fallait sanctionner individuellement. Globalement, on crie tolérance zéro, alors on prend un groupe de magistrats de la Cour suprême, on le met à la porte. Or, on n'en a pas assez. Il faut d'abord garder ce qu'on a. Et ensuite, il faut, vous savez, la magistrature, c'est comme le journalisme, c'est d'abord de l'art, surtout au niveau du tribunal ou de la Cour, du juge. Et là, au niveau du parquet, regardez maintenant les bêtises qu'on est en train de faire maintenant. Parce qu'on a vite promis à des grades des gens qui n'avaient pas encore acquis l'expérience. Et je vous dis, 2500 dossiers à la Cour suprême. Qui me l'a dit? L'ancien premier président de la Cour suprême. Il m'a dit, j'ai laissé 2500 dossiers. Il m'a même dit, moi-même, j'ai dû aller au cours derrière l'aîné pour apprendre la cassation. C'est le sommet de la justice. Deuxième erreur, on a prévu de faire classer la Cour suprême en Conseil constitutionnel, Cour de cassation et Conseil d'État. On ne l'a toujours pas fait, parce que faute de bâtiments et faute de magistrats expérimentés, ça c'est le sommet. Alors, il ne faut pas jouer avec ce domaine, comme si, même le football, hein, il faut un entraînement, il faut un stade. On ne dirait pas comme bien, non, en main des joueurs, ils vont jouer dans la rue. Mais comment non, il y a un stade pour ça.
Oui, Diana, parmi les défis à relever par le gouvernement, il y a l'amélioration des conditions de vie des magistrats. Hein. Je crois que c'est un problème sérieux.
Oui, c'est vrai. Nous faisons la caricature, mais je pense qu'il faut aller au-delà de la caricature. Lorsqu'on dit le procès sous l'arbre, je pense que ce n'est pas cela le cas. Moi, je suis un des grands congrès qui ont fait la ronde de beaucoup de nos provinces. Je n'aimerais pas croire à ce que Fidel dit que même à Inongo là-bas, il n'y a pas ne fût-ce qu'une salle, il n'y a pas de bois où on peut fabriquer une armoire pour garder le document. Mais c'est quel pays ça? Quelle image que vous donnez de ce pays? Je pense que la caricature a ses limites. Et c'est pour vous dire que le moyen, c'est important. Tout le monde le dit, les chefs de l'État l'ont dit, il faut des moyens. Les moyens, d'abord, le moyen essentiel pour rendre son travail. Et le plus grand moyen, ça, c'est que chacun ait son salaire, c'est son droit, et qu'il puisse avoir du papier.
Et vous pensez que cette fois-ci, ça sera effectif?
Ce n'est pas à moi de penser, mais le chef de l'État l'a promis, parce que c'est un homme de parole, il a promis plusieurs choses, et ça, c'est sûr. Il a promis dans la magistrature, il en a fait son cheval de bataille, et nous constatons qu'il mène effectivement des actions là-dedans. Pourquoi ne pas croire que le moyen viendra? Et le jour où on va donner à ce jeune magistrat satirique, Fidel sera le premier à dire, ah non, mais gaspillage, on a donné le véhicule, voilà.
Merci de nous avoir donné notre dernier thème ce soir. Le Premier ministre a échangé lundi dernier à Kinshasa avec les opérateurs économiques au sujet de l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. C'était au siège de la Fédération des entreprises du Congo ici à Kinshasa. Cette descente d'Adolphe Mouzito dans les installations de la FEC est une première depuis la création de cette corporation d'hommes d'affaires. L'occasion était indiquée pour les deux parties d'examiner les préoccupations du PATCONA contenues dans les mémorandums adressés au gouvernement central. Le détail avec Daniel Pamindoni.
Dans leur mémo adressé au gouvernement de la République, les hommes d'affaires déplorent le climat économique malsain dans lequel ils évoluent. Et le président de la FEC n'est pas allé par le dos de la cuillère pour le rappeler au Premier ministre, Albert Yuma.
Nous avons évoqué le cas du secteur industriel local, que le gouvernement pourtant veut relancer au travers du projet de loi sur la relance de la production locale. Mais paradoxalement, sans préavis, sans concertation et sans évaluation préalable, votre décret a annulé les exonérations et allègements douaniers et fiscaux à la stupéfaction des opérateurs économiques.
La FEC n'avait pas que raison dans sa requête. Le ministre des Mines, par exemple, l'a dit pour des opérateurs miniers qui n'ont pas respecté les engagements de 2003, ce qui a au retour donné lieu à une nouvelle taxe. Le ministre Luzolo Bambi s'est chargé de la question de pollution de la justice et de la corruption telle que décriée par les opérateurs économiques.
La corruption a un corrupteur et un corrompu. Qui corrompt le maïs? La plus grande victime de la corruption, c'est l'entrepreneur.
Vu la complexité de l'affaire, le Premier ministre a promis de poursuivre les discussions avec la FEC dans des cadres plus appropriés en vue de l'amélioration du climat des affaires et des investissements en République démocratique du Congo.
Pierre Kenemo, je rappelle que vous êtes directeur des programmes de la radio Nsanga FM, émettant depuis Mbujima et au Kasaï oriental. L'AMIBA qui se trouve là, au Mbujima où vous vous trouvez actuellement, était le pilier économique de cette province. Cette société connaît des sérieux problèmes depuis plusieurs années. Et il n'y a toujours pas de partenaires pour essayer de relancer les activités de cette entreprise. Cela pourrait être lié aussi au climat des affaires.
Bon, c'est tout ce qui est lié à ce climat des affaires qui n'est pas toujours clairement défini. C'est souvent au début là que la guerre nous dit au fait qu'on n'a pas lié, peut-être à tout à fait. Mais ici, je dois vous assumer que la guerre a eu lieu entre l'Amérique de Mouzoumaï et l'Afrique. L'Afrique a accusé l'Amérique de Mouzoumaï d'instituer des pactes non concertés et a demandé à ses affiliés de ne rien payer à l'Amérique. Et la mairie a eu des problèmes sérieux. Jusque là, le problème est continu, et parce que les années ne sont pas respectées comme voulu. Donc, c'est un problème réel qui existe, et donc, je pense qu'il faut des solutions à tous les niveaux.
Oui, Fidel Moussangou, je rappelle que vous êtes le coordinateur du journal Le Parc, un quotidien qui part ici à Kinshasa. La panoplie des taxes, notre compère qui est en Bouzouma, il a évoqué, la panoplie des taxes qui sont imposées aux opérateurs économiques et parmi les facteurs qui ne permettent pas l'amélioration du climat des affaires. À votre avis, que peut-il faire pour essayer de solutionner ces problèmes?
Il y a un principe universel qui dit trop d'impôts tue l'impôt. Et au Congo, nous sommes champions en impôts. On crée toujours des impôts. Pour un petit produit qui coûte $1 à l'entrée au Congo, il finira par coûter $10 au consommateur. Alors, on ne favorise pas l'éclosion des entreprises privées commerciales. Deuxième élément, il faut revoir la législation commerciale, l'adapter à la donne internationale, à l'OADA. Troisième élément, il faut renforcer les tribunaux du commerce avec le système d'arbitrage, parce que l'argent perd du bruit. Quatrième élément, il faut renforcer les tribunaux de travail pour que les conflits de travail se passent dans un tribunal à côté du système de prud'hommes comme en France. Des sages, des employés qui veulent. Là, il y aura moins de suppression d'emplois. Donc, ce sont l'arsenal juridico-administratif et économique qu'il faut revoir et l'adapter à la donne internationale pour réduire le coût. Et permettre la consommation, en vertu de quoi le cathode del Piodi, qui revient à $5 à l'entrée à Matadi, moi j'achète à $100. Parce qu'il y a trop de taxes et le consommateur mange moins del Piodi. En vertu de quoi? On ne peut pas contraindre M. Damso, M. le Congolais, mon frère là, qui est dans l'importation de vivres, de dire, monsieur, on vous donne 6 mois, plus del Piodi. Vous devez acheter des bateaux à la chanique pour exploiter les poissons qui meurent de vieillesse dans les cours d'eau congolais. Deux, monsieur, vous devez faire des fermes. À vertu de quoi la viande de Masisi doit être mangée au Rwanda et pas à Kinshasa. Ferme. Réduire la taxation au niveau de produits pétroliers pour que nous mangeons le fromage de Masisi, notre pays, au prix de Goma, ou bien avec $1.5 pour le transport. Réduire la taxation au niveau du pétrole, c'est ça qu'il faut. Nous sommes les champions des taxes et nous tuons l'économie.
Oui, bien sûr, coupable. Je rappelle que vous êtes directeur de communication du journal L'Avenir, un quotidien qui parle ici à Kinshasa. Et il faut réduire la taxation. Et plusieurs fois, cette panoplie de taxes a été dénoncée par les opérateurs économiques, mais rien ne change. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de trouver une solution à ce problème-là?
La solution, c'est que les différents déjà, surtout maintenant avec l'autonomie qu'on a accordée aux provinces, et les provinces estiment qu'il faut leur donner les moyens. J'ai entendu même ici Fidel qui a dit que les provinces peuvent, ils doivent. Et voilà, les provinces qui disent, on nous responsabilise, nous devons augmenter aussi notre budget en attendant la rétrocession sur les taxes à caractère national, on doit les procéder, mais ils doivent créer des taxes locales afin de créer aussi les moyens de faire comme tout le monde. Et là, ils oublient que c'est parfois le même opérateur économique qui est taxé au niveau national, on le taxe encore au niveau provincial et on risque même le commissaire des zones au niveau. À chaque niveau, il est taxé. Non, je crois que sur ce point-là, c'est pourquoi cette décentralisation, il faut qu'on y aille un peu lentement. Sinon, voilà, déjà, c'est que ça peut créer comme problème au niveau des opérateurs.
Vous êtes d'avis qu'il faut impérativement réduire la taxation?
Tout à fait. Il faut réduire la taxation. Mais alors, celle qu'on réduit, qu'elle soit payée, effectivement, que les opérateurs économiques
évite de s'organiser avec les gens de la DGI pour minorer, pour payer moins, et lorsque le gouvernement se rend compte que c'est toujours moins, il cherche à augmenter pour augmenter. Mais si les opérateurs économiques étaient orthodoxes comme partout à travers le monde, ils ne doivent pas seulement exiger du gouvernement, ils doivent aider le gouvernement à ce que, et ils payent effectivement l'État. Mais la plupart, vous pouvez prendre 50% d'opérateurs économiques qui payent à des agents. Et c'est pourquoi vous voyez un agent de la DGI qui ne touche que 200 dollars par mois, mais il a 4 et 5 jeeps, il achète avec quoi? Avec l'argent minoré par les opérateurs économiques qui n'aident pas l'État sur ce point-là.
Merci pour la fin de cette émission. Alain Goy était à la technique, Alain Hirong à la réalisation, assisté de Samuel Katiak sous la supervision de Pélépité Lamondo. Guy Mathieu vous a présenté cette émission. Merci et bon week-end sur Radio Capri. Oh,